Frères et sœurs, les amis, dans la continuité, verset après verset, de l'évangile de dimanche dernier, saint Marc nous donne à accueillir aujourd'hui, en ce quatrième dimanche du temps ordinaire, j'allais dire toujours la même logique, c'est-à-dire une rupture, un basculement, si je puis dire, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous allons voir comment. Alors nous reprenons les choses très simplement dans l'ordre. Donc Jésus vient tout juste de recruter ses quatre premiers disciples, nous l'avons entendu donc dimanche dernier, Simon et André, son frère, puis Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Et nous avions bien enregistré que le temps est accompli et que le règne de Dieu s'est approché. Donc je vous ai rappelé que ce n'est pas nous qui nous approchons du règne de Dieu, c'est le règne de Dieu qui s'approche de nous. Il ne faut jamais changer cette dynamique. Et donc, le Christ va s'inscrire dans à la fois cette attente du règne de Dieu, qu'il incarne lui-même par sa présence, auprès de son peuple, et bien sûr dans la continuité du projet d'alliance de Dieu avec Israël. Alors rien d'étonnant que Jésus se rende à la synagogue pour faire son, j'allais dire, on dirait aujourd'hui, son acte de piété. Saint Marc a voulu donc concentrer l'intérêt du lecteur et nous de l'auditeur sur l'enseignement de Jésus. Nous l'avons peut-être remarqué, en quelques lignes, quatre fois, le verbe « enseigner » ou le mot « enseignement » revient. Jésus se rendit à la synagogue et là il enseignait. 1. On était frappé par son enseignement. 2. Car il enseignait un homme qui a autorité. 3. Et tous s'interrogeaient, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Donc on voit bien que le mot enseigner ici, le verbe enseigner, est comme l'axe fondamental autour duquel se déroule cet évangile. Nous avons ici également un éclairage qui peut être important pour nous aujourd'hui, qui est l'autorité. Enseigner avec autorité montre bien que l'autorité, qui est un sujet à caractère philosophique malgré tout, ce n'est pas d'abord donner des ordres au mépris de tout et de tout le monde, mais c'est d'abord pédagogiquement essayer de convaincre, essayer d'amener les personnes sur un chemin de conversion, comme nous le disions la semaine dernière. Donc, c'est au cœur de cet enseignement de Jésus que Marc note une rupture, ce basculement dont je parlais tout à l'heure, une sorte de nouveauté qui vient, j'allais dire, tout basculer. Comment ? Alors ça, c'est très intéressant. Parce que à l'enseignement des scribes se substitue celui du Sauveur. Voilà, c'est déjà le premier basculement. Et saint Marc ne nous rapporte pas, ça qui est très curieux mais aussi intéressant, ne nous rapporte pas le contenu de ce que Jésus a pu dire. Mais j'allais dire mieux encore, il décrit l'expulsion d'un démon, ce que nous appellerions aujourd'hui un exorcisme. Ce qui veut donc bien dire que pour saint Marc, l'évangéliste, enseignement et, entre guillemets, exorcisme sont l'œuvre même de Jésus. Et ça va ensemble. Autrement dit, que l'impact de la parole de Dieu puisse faire en sorte que démarre un chemin de conversion, et nous l'avons bien dit également, un chemin de conversion, c'est-à-dire changer complètement de direction, c'est-à-dire expulser tout ce qui peut y avoir en moi de ce qui m'empêche, en tant qu'obstacle, de suivre le Christ Jésus. Et donc cette scène se passe à la synagogue. Ça marque le précise par deux fois. Et qui plus est, voilà encore un basculement, un jour de sabbat, ce qui n'est pas sans importance à noter, puisque le sabbat était le jour par excellence où l'on célébrait l'action de Dieu comme créateur et libérateur. Donc sa marque nous montre en Jésus-Christ Dieu le Père libérant l'homme de tous les démons qu'il possède. Et c'est ça la preuve que les temps sont accomplis, voyez-vous, puisque le mal est vaincu. Le mal avec un M majuscule, c'est-à-dire que l'auteur du mal est vaincu. Alors la scène, nous l'avons entendue, est celle de cet esprit impur dans cet homme qui est là présent dans la synagogue. Il est à noter, et c'est très important, et ça montre justement le caractère spécifique de l'autorité, c'est que Jésus ne l'agresse pas. Il n'agresse pas l'homme en question. Donc, ça, c'est important. Jésus, n'agressant pas cette personne, va faire en sorte que, entre guillemets, ce qui est agressé, c'est l'esprit impur qui est en lui, et non pas la personne. Et donc, ce face-à-face avec Dieu, qui est le seul saint, est intolérable, bien sûr, pour cet esprit impur. Et c'est lui, cet esprit, qui connaît très bien la personne qui est en face de lui, c'est-à-dire la personne du Christ, va lui-même annoncer, si l'on peut dire, sa défaite. Nous l'avons entendu dans ce bref dialogue, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth, es-tu venu pour nous perdre ?» Ça veut donc dire que l'esprit impur sait qu'il est sur un chemin de perdition. Et il va dire, je sais fort bien qui tu es. Donc on voit bien que l'esprit impur, à la limite, a tout compris, car son interrogation, es-tu venu pour nous perdre ? Ce n'est pas une interrogation, c'est un constat de celui qui est en face de lui et qui est celui qui sauve tous les hommes de tout mal. Autrement dit, ce qui est très, très beau, c'est que l'esprit impur est démasqué en reconnaissant l'autorité de Jésus, qui n'est pas une autorité agressive. Ensuite, le texte, on voit bien que Jésus, entre guillemets, hausse le ton, silence, sort de cet homme, et il emploie ici un verbe grec que l'on traduit par museler, soit museler, c'est-à-dire, entre guillemets, vulgairement, ferme-la, quoi, tout simplement. Oui, Jésus commande en maître à cet esprit impur de se taire. Pourquoi ? Parce que l'heure n'est pas encore venue de divulguer à ses disciples la mission même et surtout la finalité de la mission du Christ. Donc ça, c'est un détail aussi qui a son importance. L'esprit impur en question sait très bien depuis le début qu'il est perdu, même si Dieu lui permet toujours d'exercer le mal qu'il peut commettre. Et nous voyons bien qu'à la fin, l'homme est délivré. Alors, ce qu'il y a de curieux, c'est que, à la fois, l'esprit impur est muselé, mais le paradoxe est que les langues se délient pour reconnaître l'importance, c'est-à-dire la gravité de l'événement. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient, nous l'avons entendu, je ne vais pas relire le texte. Et le récit de saint Marc va se clore sur une question, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est là le rôle des miracles et des actes de puissance de Jésus en général. Ils ne prouvent rien, mais ils interrogent, c'est-à-dire qu'ils font signe. Et là aussi, je trouve ça important pour nous aujourd'hui, quand nous disons qu'on ne comprend pas telle ou telle chose, ou qu'on ne comprend pas non plus les actes du Seigneur et pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Ce n'est pas tellement de découvrir une réponse à l'intérieur des actes même du Christ, mais c'est que cela puisse provoquer en chacun de nous une interrogation, c'est-à-dire mettre en marche, si je puis dire, notre intelligence et notre réflexion pour creuser davantage encore la parole de Dieu. Autrement dit, les signes du Christ sont là pour nous interroger et nous poser des questions. Et encore faut-il, bien sûr, nous poser les bonnes questions. Et c'est au travers de la prière, de la méditation et de la contemplation que peu à peu, au cours de notre existence, eh bien, nous pourrons, je ne dirais pas forcément trouver des réponses, mais que nous nous étonnerons nous-mêmes de la fructification de la parole de Dieu en chacun de nos cœurs. Amen.